Bazar sonore, des MJC dans la radio.
Les jeux de scène ne cessent de s'enchaîner, des MJC au son de système. Ça allait, tant qu'on rappait dans les MJC, tant qu'on rappait dans les MJC, mais aujourd'hui le phénomène a grandi.
Dans des MJC ghetto, j'ai fait mes premiers concerts en rassemblant des gouttes d'eau, j'en ai fait des rivières.
Bazar sonore, des radios dans les MJC. En novembre 2022, ont eu lieu les rencontres des acteurs jeunesse des MJC à Latu. Deux émissions ont été enregistrées à cette occasion autour des postures d'animation et de l'accueil des jeunes dans nos MJC.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette première émission de radio sur ce regroupement. Donc on est ici pour un débat autour des postures dans nos métiers.
La question qu'on a maintenant envie de vous poser, c'est avec quels jeunes vous travaillez, qui sont les jeunes que vous accompagnez au quotidien?
Les MJC, enfin en tout cas la nôtre, c'est plutôt ceux qui sont pas forcément acceptés ou qui rentrent pas forcément dans les cases.
Et c'est des jeunes qui, certains, sont déscolarisés et qui ne savent pas quoi faire et du coup ils passent vraiment toute leur journée à la MJC.
Dans ma MJC, j'ai clairement des caramels mous. C'est que c'est des ados où quand on s'approche trop près d'eux, on leur dit boue, ils sursautent.
Mais c'est toujours un peu difficile de... J'ai l'impression que plus on laisse de place à certains, moins on en laisse à d'autres. Et il y a un truc à jongler un peu là-dessus pour essayer de faire en sorte que tout le monde y trouve sa place. Et c'est parfois un peu délicat.
Tu nous parles d'une forme de mixité sociale, du coup, dans les jeunes que vous accueillez à la MJ. Est-ce que c'est des situations que vous retrouvez, vous, dans vos MJ, ça?
J'ai un quartier où il n'y a que des bobos, et un quartier là, il y a trop de délinquance, il y a un quartier là où il y a trop de décrochage scolaire. Moi, mon objectif, en fait, c'est de faire des projets pour réunir toute cette jeunesse-là, tout ce public-là, sur le même projet pour créer une mixité sociale.
En fait, de fait, moi, j'ai l'impression que si on propose une activité, quelle qu'elle soit, et qu'on dit elle est ouverte à tous, et que de fait, il peut y avoir des gens un peu de différents milieux qui la font, il se produit presque tout le temps la même chose. Surtout quand c'est des actions culturelles, c'est que en gros les pauvres se sentent pas légitimes et les riches prennent la place. Et je sais, ça peut paraître caricatural, mais en vrai, moi je trouve que c'est ce qui se passe. Et que du coup, moi ça me choque pas. Et je sais que je mets un pied dans le plat de dire que dans nos métiers, on fait plus d'efforts pour que ceux qui dans la société ont moins de place dans ces trucs puissent l'avoir plus.
On accepte d'investir certains groupes et d'y passer plus de temps parce que ça nécessite un peu plus. Et on va, en tout cas, plutôt que de décréter une mixité sociale existante ou souhaitée même, on va accepter de se dire qu'on va passer par des phases de non-mixité. Et que l'objectif final, effectivement, sera que ce groupe-là puisse aller en rencontrer d'autres, travailler les questions d'interculturalité à un moment donné. Mais on accepte aujourd'hui, effectivement, de se dire... le groupe qui fait du hip-hop à la MJC, c'est pas le même groupe que celui qui pratique le théâtre. Ils ont pas le même capital culturel, social, symbolique. Et c'est pas très grave, on va investir ça avec qui ils sont. Et à un moment donné, quand on les sentira prêts, on essaiera d'accompagner vers, et si on allait voir comment fonctionnent les autres. Mais on a accepté à un moment donné de se dire, sinon, effectivement, on n'y arrivait pas. Se jouent aussi des questions, de radicalité, d'adhésion à des mouvements d'extrême droite sur nos territoires. Ça se décrète pas à un moment donné que de dire tu vas pouvoir passer une après-midi à la MJC avec des jeunes racisés. Donc on accepte de passer par ces phases de non-mixité pour arriver à potentiellement cette mixité sociale.
Il y a aussi, je pense, ce problème de culture, d'éducation, d'apprentissage, où c'est un raccourci assez rapide pour rentrer dans le débat, de dire ouais, public riche, public pauvre, peut-être dans certains endroits, mais dans d'autres, il y a cette mixité sociale est plus profonde que ça. Ils ont pas forcément des différences énormes de quotient familial, on va dire. Comme ça, on se comprend. Mais il y a quand même un public qui ne va pas aux activités et l'autre public qui va aux activités. Et pour être vulgaire un peu, moi j'entends souvent « Ouais, ça c'est un truc de guerre ». En gros, truc de guerre,
là où d'où je viens, on dit que c'est un truc de blanc, en gros. Voilà. Et il y a aussi ce truc là qui entre en
tête. On parle pas jusque de riches et de pauvres, en effet. Et en effet, selon nos, c'est juste notre boulot, c'est, je trouve, quoi, c'est de faire attention à ça en fonction de là où on travaille. Donc là, ça va être des fils de, plutôt de familles paysannes pauvres qui vont peut-être être attirés par l'extrême droite. Là, non, plutôt blanc, noir. Là, plutôt filles, garçons. Voilà, c'est pas, mais en tout cas, il y a des rapports comme ça. Et c'est important de voir quand on propose des trucs, si on fait rien juste que proposer quelque chose, il va se produire la non-mixité, quoi.
Alors, je précise juste vite fait qu'il s'agit pas de race au sens biologique, il s'agit de race sociale au sens sociologique, quoi, de raciser. Il n'y a pas question de signifier qu'il y aurait des différences raciales, quoi.
On est sur une création d'une BD des inégalités sur les questions, en fait, d'inégalité, mais dans le sens large, le validisme. Donc, validisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour les personnes en situation de handicap, c'est les discriminations liées à ces personnes-là. Le racisme, la grossophobie aussi.
Je suis dans un centre où la majorité des jeunes sont des garçons. Et ça a été tout un travail de faire venir des filles qui avaient envie, qui voyaient le lieu, mais qui ne se sentaient pas légitimes de rentrer dans le lieu parce que... voilà, il y a des garçons devant, bon, je dis les choses, hein, il y a des garçons devant qui fument du shit, intérieur, ça crie fort, ça se bat, ça... au rapport de domination, il y avait vraiment ce truc-là de, nous on n'a pas notre place, et les garçons en plus alimentaient ce truc-là en mode, ouais, les filles n'ont rien à faire ici en fait. Et nous on s'est forcés, parce que on les a forcés même, pardon, des fois, voilà, faut y aller radicalement, sur les séjours à mélanger les publics et à faire voilà moitié-moitié.
Je vous propose d'introduire la deuxième partie qui là est plutôt sur qu'est-ce que ça produit. Mais la première question qu'on avait envie de vous poser avec Scarlett, c'est en tant qu'animateur, qu'est-ce que vous avez appris sur le tas dans l'accompagnement de jeunes plutôt qu'en formation?
J'ai été dans un BPJEPS formation adulte et je me suis pas retrouvée vraiment parce que c'était un BPJEPS animation sociale. Donc la thématique me plaisait fortement. Mais la problématique, c'est que du coup, c'était que des publics iPad, j'aime, absolument pas de jeunesse. J'étais la seule qui était en milieu associatif, 11-17 ans. Quand on fait les rassemblements MJC, on a différents jeunes, donc des jeunes de quartier, jeunes du coup de campagne plus que profonde, campagne tranquille. Mais je trouve qu'en fait, on s'apporte vachement. Moi, je trouve que les pratiques, quand on fait des échanges de pratiques, etc., c'est plus que fort, quoi.
Moi, j'ai eu vraiment des formations universitaires et quotidiennement, je me rends compte que c'est des formations qui n'étaient pas complètes et qui ne préparaient pas à un terrain associatif, mais vraiment à un terrain fonction publique. On est là en permanence à aller chercher comment faire fonctionner et faire vivre financièrement les projets, et c'est des choses sur lesquelles en université, enfin, par les formations universitaires, on n'est pas forcément bien accompagné dessus.
Moi, je dirais que c'est le temps passé sur le terrain et le temps d'échange avec les pairs qui m'ont permis de travailler des postures, des questions de méthode d'accompagnement de groupe, mais pas du tout, pour le coup, la méthodologie de projet abordée en BPJEPS ou ce genre de conneries que j'ai jamais réinvesti. Enfin, puis même contre lequel je suis un peu en lutte aujourd'hui, si aussi je veux être pertinent dans mon accompagnement de groupe.
Voilà, on apprend avec en faisant des rencontres avec d'autres acteurs de la jeunesse, en étant là avec des jeunes, en ayant des entre guillemets des soucis, même en ayant des problématiques avec des groupes, des choses comme ça, quand on entend parler de mixité, de domination, le rapport de domination, merci, tout ça, c'est sur le terrain concrètement que ça s'apprend. On peut apprendre ces notions là en cours. Mais en vrai, on va juste voir les notions, mais pas concrètement les vivre.
Je me permets de réagir, mais moi, je crois que c'est parce que je me suis beaucoup trompé avec des groupes de jeunes que j'ai appris, en fait. Enfin, c'est en me plantant souvent, en tentant des choses qui n'ont pas marché. Donc je te rejoins vachement sur le, ouais, il y a de la pratique, quoi.
Faut quand même dire que les formations, on n'apprend pas rien. On apprend quand même des choses assez un peu bureaucrates, les normes, qu'il faut appeler en cas d'incendie, je dis n'importe quoi, plein de trucs comme ça.
Moi j'ai un BAFA, un BAFD, des trucs pas très intéressants. Puis en plus selon l'organisme de formation, moi BAFA j'ai rien appris d'intéressant. BAFD c'était un organisme, je vais pas citer les organismes, mais c'était plutôt un organisme d'éducation populaire politique, donc là on était plutôt sensibilisé un petit peu à des trucs, mais j'ai quand même appris des choses en formation qui étaient des formations financées par l'AFR une fois que j'étais embauché, sur des formations éducation à la citoyenneté internationale, des formations donc avec des organismes un peu plus militants, et où là vraiment c'est posé certaines questions qui, où tu disais au début je vais mettre les pieds dans le plat, bah c'était un peu ça, on arrivait en formation et les gens mettaient les pieds dans le plat et donc on était quand même confronté à ces questions là et on peut tout à fait être formé sans jamais y être confronté, et je pense que du coup c'est presque un appel à financer ce type de formation dans nos réseaux pour parce que bon je pense que là on est tous et toutes un peu sensibles à l'éducation populaire politique, mais c'est pas toujours le cas, quoi.
Qu'est-ce que ça vous demande en termes de ressources ? Et là, je vous parle de disposition sociale, de ressources personnelles. Quand vous arrivez, du coup, si la formation est surtout sur le terrain, qu'est-ce qui relève de disposition sociale, de capacité à être en relation avec les gens, de parler un vocabulaire, avoir des habitudes qui permettent de rentrer en relation avec des jeunes ? Qu'est-ce que ça a pu vous demander en termes de ressources personnelles ? Ça peut être en termes de gestion des affects, par exemple, ou de transformation de soi aussi, à un moment donné, de sa façon de s'habiller, de sa façon de parler. Est-ce que ça vous a travaillé de cette manière-là ?
On a un peu des exemples, même si on le veut pas forcément, indirectement on l'est, en sachant qu'on est référent, qu'on est souvent plus âgé. Du coup, on est des exemples pour ces jeunes, et du coup, c'est clair qu'il y a une posture particulière à avoir dans le langage corporel, dans le langage de ce qu'on dit.
Je trouve qu'il faut être soi-même avec les jeunes, en fait. Moi, par exemple, je suis moi-même au travail ou à l'extérieur. Et avec les jeunes aussi, il faut dire les choses, il faut les écouter, il faut vraiment, quand ça ne va pas, il faut le dire.
Moi, je sais pas vraiment qui je suis, en fait, moi-même. Enfin, si c'est compliqué de savoir qui on est, j'ai l'impression que le principe de la relation humaine, mais là, quelle qu'elle soit, hein, je sors presque du travail, c'est que tu te fais un peu dépasser par la personne que t'as en face et que du coup, ça te transforme toi-même en permanence. Et que là, le truc de la posture professionnelle qui, moi, m'intéresse et qui vient en vrai de considération politique, c'est de se dire, en fait, moi, si je veux juste faire des choses avec des jeunes avec qui je me sens bien, en vrai ça va être des jeunes qui me ressemblent avec qui je vais faire des choses, et ça serait une espèce de truc comme ça.
Moi j'ai dû changer pas mal de trucs, en fait, mais je me suis sentie limite obligée, en fait, de devoir changer ma manière d'être. Bon, après il y a des trucs qu'il fallait vraiment que je change, mais mon style vestimentaire était pas présent, hein. Non, moi, genre, j'ai demandé aux jeunes, est-ce que ça vous dérange que je sois franche, parce que des fois ils arrivent, ils disent, oh, tu le trouves bon mon nouveau t-shirt, et je suis là, bah non, il est super moche, quoi. Enfin, voilà. Mais je dis, est-ce que c'est ça, enfin, je peux être violente aussi en tant qu'animatrice, donc. Et en fait, non, c'est ce qui leur plaise. Enfin, je suis vraie, du coup. Ils me disent, oh, ouais, c'est cool. Enfin, t'es pas une prof, t'es pas.
Est-ce que pour vous, les animateurs doivent garder une position de neutralité vis-à-vis des jeunes ?
Nous, on passe quand même par un réseau qui se veut d'éducation populaire politique. Je pense que on n'est pas neutre, et essayer de faire bluff, on est neutre, c'est un truc qui ça relève de la manipulation. Et en fait, ne pas donner son avis, c'est sacraliser son avis. C'est-à-dire qu'après, ils vont l'avoir, mon avis. Ils vont l'entendre. On a beaucoup de discussions informelles et ils vont se dire, ouais, il le donne pas parce que lui, il sait, en fait. Il passe pour le vieux sage, tu vois. Moi, je suis un homme cis blanc hétéro. Je coche toutes les petites cases des privilèges. Et donc, quand je parle de cette position-là. Il y a des trucs qui se voient, il y a des trucs qui se voient moins. Mais du coup, je pense que la neutralité, ça existe pas, et du coup autant assumer une part de il faut être et dire en fait moi j'ai pas raison, j'ai un avis et j'ai un avis situé socialement.
Nous enfin les jeunes quand ils viennent à l'MJC, ils nous disent moi à l'école on parle politique, on parle de machin mais les profs ils disent on est forcément neutre. Mais toi qu'est-ce que t'en penses? Et quand on leur dit je sais pas si je dois m'exprimer, mais c'est un peu triste parce que comme on parlait justement d'MJC, de maison, on est un professionnel, on est dans une maison dite d'éducation populaire. Bah oui, effectivement, tu montres un peu qui tu, enfin d'où tu viens aussi.
Concrètement, on peut pas être neutre. On est dans un travail humain. Les jeunes ne viennent pas parler à des murs. C'est impossible d'être neutre. Après, on peut se faire des fois l'avocat du diable en argumentant à l'inverse de ce qu'ils exposent pour justement pousser la réflexion et pousser au débat et qu'ils apprennent aussi et nous aussi d'ailleurs qu'on apprenne tous à argumenter notre façon de voir les choses et à chercher plus loin, à se re-questionner.
Et justement, ne soyons pas neutres, osons affirmer qui on est pour que eux puissent aussi s'affirmer en tant que qu'adulte en devenir et citoyen en devenir aussi, puisqu'il y a toute la question de citoyenneté aussi derrière.
Malheureusement, je suis pas dans cette situation. On a une obligation de neutralité parce que on est en délégation de service public. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, à nos positions, à même nos engagements et nos discours avec les jeunes.
La neutralité face à l'injustice, c'est pas de la neutralité. À mes yeux, et donc du coup, ils sont constamment confrontés au fait qu'on admet le statu quo et que c'est pas très grave. Et donc du coup, ils viennent peut-être chercher une parole un peu divergente.
Est-ce que en DSP ou en MJ, il vous arrive de jouer avec les marges de la légalité? Pour le bien des jeunes, entre guillemets.
Oh, allez.
Oui, ça peut nous arriver. Il y a un peu cette mesure du risque et de la culture du risque. Accompagner des jeunes en leur faisant croire que jamais on va transiger avec les règles, en fait, dans leur vie, c'est aussi une forme d'apprentissage, il me semble, que de jouer de ça. Alors, j'aime bien, moi, utiliser le borderline, ce terme-là. Comment on joue avec la limite? L'idée n'étant pas ni jamais de se mettre en danger, ni d'être dans des choses délictuelles ou répressives. Et je crois que les faire bouger, c'est aussi faire bouger nos postures, nos projets politiques. Sinon, une marge fixe, ça me semble dangereux aussi. Mmh. Voilà.
Okay. Ouais, pour moi, ça c'est une question qui est essentielle, même par rapport à ce qu'on disait au début, de en fait comment on fait pour que certaines personnes, pour des tas de raisons, les trucs de rapport d'une nation puissent venir dans nos structures. Moi, je pense vraiment que le cadre légal, le cadre qu'on se met parce qu'on a été formé, etc., c'est un cadre qui est fait par certaines personnes, pour certaines personnes. Qu'il y a toute une population qui ne se reconnaît pas dans ce cadre, pour des tas de raisons culturelles, etc., etc. Et que du coup, en fait, si on n'est pas malléable avec ces cadres, en fait, ces jeunes ne viennent pas.
Moi, par exemple, quand je rentre du travail, tous les soirs, je me refais la journée dans la tête et je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que là, j'ai été correct? Est-ce que là, j'aurais pu agir autrement? Est-ce que là, j'aurais dû dire ça comme ci ou comme ça? Est-ce que plein de questions comme ça? Parce qu'en vrai, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède miracle face à un jeune ou un autre. Ce sont toutes des personnes uniques, en fait. C'est pas... On peut dire, il y a un groupe de jeunes, ils sont comme ça, mais en fait, c'est un groupe de jeunes où il y a un jeune comme ci, un jeune comme ça, un jeune comme ça, un jeune comme ça, et un jeune comme ça. Du coup, dépasser les cadres, des fois, c'est nécessaire, en fait.
Moi, j'ai de la chance de travailler dans une association où j'ai une carte blanche. Donc, ça m'arrive de sortir un peu du cadre, mais j'accepte pas qu'un jeune sort du cadre. Ça, c'est clair. Ça m'arrive de sortir du cadre, mais... j'ai des arguments derrière, je suis couverte, je me couvre derrière, voilà, mais je laisse jamais un jeune sortir du cadre parce que j'assume pas après.
Moi, j'ai la chance dans ma structure d'avoir une équipe avec qui on peut construire, on peut se dire les choses quand ça va pas, voilà, on se dit ça va pas, est-ce que on pourrait plutôt faire ci, ça, et être dans le borderline ensemble.
C'est qu'en fait, oui, t'as un cadre, t'as une action qui a du sens, toujours penser d'abord le sens et après le cadre. Donc s'il y a une action qui a du sens, qui est hors cadre, tu l'as fait, tu fais péter le cadre, point. Enfin, en fait, c'est même pas une question. Enfin, genre, si elle a du sens, faut la faire. Et trouver la manière, pour que ça soit possible de le faire. En fait, moi, ce qui me saoule, que je trouve profondément malhonnête, c'est de dire en gros, il y aurait un cadre, que ce soit le cadre légal, que ce soit dans la MJI, le cadre de la société, et puis tu aurais une jeunesse, bah, on parle surtout ça, alors quand c'est des jeunesses de quartier populaire encore plus, si on les cadre pas, en gros, ils sont hors cadre. C'est faux. Tout le monde a un cadre. C'est juste que c'est pas le même. Et c'est ça qui dérange, en fait. Même d'ailleurs, des fois, ils ont des cadres qui sont encore plus rigides que les, et pas forcément mieux, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a tout le monde, tout collectif, ce cadre, en soi. Ce que je trouve intéressant, nous, dans nos tafs, c'est quand tu fais une aventure avec des gens qui se reconnaissent pas forcément dans le cadre, de la société, de la MJC, etc. Mais que toi, tu vas pas non plus à foncer dans leur cadre à eux, là, de leur petite bande de jeunes. Ça fait une espèce de moment de flou où tu vas devoir recréer un autre cadre collectif. Et c'est là où on fait de l'éducation populaire, en fait. C'est que du coup, ben, on reparle de, en fait, c'est quoi ce collectif? C'est quoi nos limites? Et du truc de l'éducation du peuple par le peuple, quoi. C'est que, ensemble, tu essayes de redire, alors c'est pas facile. Puis des fois, tu te loupes. Puis ça marche pas bien. Mais, donc, bien sûr, il y a toujours un cadre. Ce qui est intéressant, je trouve, dans nos tafs, c'est en fait comment on va repenser ce cadre avec les jeunes.
J'espère que si demain on me dit t'acceptes plus les musulmans dans ta structure, je vais être en mesure de ne pas respecter la loi. À un moment, j'espère que si les lois elles puent la merde, on sera en mesure de se dire ah tiens, ça pue un peu la merde.
J'accueille des migrants. Il y en a certains, ils devraient déjà plus être là. Et heureusement qu'on est, on va pas dire oh ouais, nous la MJC, on aime bien travailler avec la gendarmerie, on va peut-être leur emmener certaines personnes qui sont encore là. Non.
Effectivement, on a beaucoup évoqué la notion d'éducation populaire politique. Une des définitions qu'on en donne, c'est quelque chose qui vise à la transformation sociale. Si on veut faire de la transformation sociale, on peut pas se contenter que du cadre qui est aujourd'hui posé. Voilà, sinon on ne fait pas de transformation sociale, on joue dans ce cadre. Mais si on sort pas du bac à sable, ben, le bac à sable c'est le même tout le temps, quoi.
Ça allait, tant qu'on rappelle dans les MJC, tant qu'on rappelle dans les MJC, mais aujourd'hui le phénomène a grandi.
Bazar sonore, des radios dans les MJC.